Cette retraite est tellement bien organisée que même l'ascenseur a fait en sorte que ce soit bien que nous soyons ici aujourd'hui, dans l'oratoire. Promis, je n'ai rien saboté, mais bon, voilà, c'est très bien. Voilà, notre dernier, tout dernier, avant la messe quand même, parce que c'est quand même la messe qui sera le tout dernier moment communautaire passé ensemble dans le cadre de cette retraite. Marcher ensemble dans l'amour et la vérité, et ça commence à venir, vous en souvenez, c'est bien, pour vivre. Très bien. Et comme nous avons tout vu, comme nous avons passé chacun de ces mots un petit peu au tamis, où on passe à la passoire de la parole de Dieu, eh bien, dernière intervention, je vous propose de recommencer. Mais rassurez-vous, on s'arrêtera à marcher, mais peut-être marcher d'une manière nouvelle, justement. Après avoir traversé l'ensemble de ce programme, de cette perspective, de cette trajectoire qui nous est donnée, recommencer, puisque finalement notre vie est malgré tout souvent un éternel. Un recommencement, enfin, même si on change un petit peu, on prend quelques années quand même, d'année en année, mais les choses recommencent. Et en tout cas, par rapport à la dimension de la mission, du départ, de l'envoi, eh bien, il y a quelque chose qui doit recommencer a priori, alors à différents rythmes, à différentes étapes, à chaque obédience, c'est recommencer. Et puis, c'est recommencer une communauté, c'est recommencer des relations, c'est recommencer plein de choses. Et puis tous les jours, c'est recommencer à vivre. Alors, je vous propose de partir en voyage avec le grand voyageur du Nouveau Testament, j'ai nommé Saint Paul. En plus, ça permettra de saluer nos sœurs de Saint Paul aveugles. Qui sont en lien étroit avec votre congrégation, et puis même nous en avons une digne représentante parmi nous. Elle est au premier rang. Saint Paul, un voyageur infatigable. S'il est un personnage biblique toujours sur le départ, c'est bien Paul. Les actes des apôtres le présentent en missionnaire et ses lettres évoquent ses incessants déplacements. Mais Paul est-il ce voyageur sans bagage qu'a construit la tradition? Pourquoi? Comment est-il parti? Nous verrons si nous nous en inspirons ou si nous avons un regard sur lui. Plus ou moins, comme le dit ou comme le révèle la parole de Dieu, ou si nous avons une image de lui, qui n'est pas tout à fait peut-être ajustée. Voyage à pied, souvent. Danger des fleuves, danger des brigands, danger des frères de race, danger des païens, danger dans la ville, danger dans le désert, danger sur mer, danger des faux frères, fatigue et peine, veille souvent, faim et soif, jeûne souvent, froid et dénuement. Voilà comment Paul décrit ses missions dans la seconde lettre aux Corinthiens, chapitre 11, verset 26. Les déplacements jouent donc un rôle important dans ce qu'on a retenu de l'apôtre Paul. Non seulement l'auteur des Actes des Apôtres, Luc, les met en scène en n'hésitant pas à insister sur les périls qu'il rencontre. La plus grande étant évidemment le naufrage de son voyage de captivité. Mais le Tarsiote, lui-même, j'aime beaucoup ce mot Tarsiote, hein, je vais le mettre ici, le Tarsiote, l'habitant de Tarse, lui-même les évoque comme un argument pour contrer ceux qui le trouvent autoritaire. L'un comme l'autre s'accordent à dresser le portrait d'un apôtre courant le monde qui fonde et justifie toutes les missions que que l'Église lancera dans le futur. Et pourtant, Paul n'a rien à voir avec l'image du missionnaire que l'on pourrait connaître aujourd'hui, vous savez, celui qui s'enfonce dans des forêts vierges, dans l'espoir d'aller convertir des peuplades inconnues et possiblement cannibales. Observons ce qu'il est convenu d'appeler la carte des voyages missionnaires. D'abord, ce sont toutes des routes extrêmement connues. Paul n'est pas parti avec une machette à la main ou une débroussailleuse dans des endroits qu'il n'avait pas encore visités. Paul a été dans des lieux connus, pas parti s'enfoncer dans un pays inconnu. Le premier voyage qui passe par Chypre et Antioche de Bithynie n'est en fait qu'une tournée de visite des communautés rattachées à l'église d'Antioche, dont Paul est simplement un membre. Tout indique que les routes sont bien connues et qu'il existe déjà des chrétiens dans les villes que la petite équipe traverse. D'ailleurs, Paul n'en est pas le leader. Les Actes des Apôtres montrent que c'est Barnabé qui commande et que ce dernier est sur ses terres. Le second voyage missionnaire, quant à lui, est un voyage d'Antioche à Éphèse, suivi d'une tournée d'évangélisation en Grèce qui se conclut par un très long séjour à Éphèse. Si Paul découvre des réalités nouvelles, il n'est pas certain qu'il avance en terre inconnue. En effet, il parcourt les routes commerciales qu'il avait peut-être déjà empruntées. La première épître aux Thessaloniciens nous confirme d'ailleurs qu'il trouve du travail à chaque étape. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 2, verset 9. Preuve qu'il bénéficie d'un réseau. Éphèse, Athènes, Corinthe, qui sont des phares pour la culture antique, n'ont de toute façon rien d'étranger à Paul, qui était pourvu d'une solide éducation. Le troisième voyage missionnaire n'est finalement qu'un voyage de captivité qui tourne mal, l'apôtre n'étant plus du tout à la manœuvre. Paul lui-même est remarquablement discret sur ses pérégrinations. Pour tout dire, le seul passage un peu développé est celui de la seconde épître aux Corinthiens qu'on vient d'évoquer. C'est à peine s'il parle dans la même épître de son arrivée à Troas et de son départ pour la Macédoine. Et dans l'Épître aux Romains, quand il mentionne son départ prochain pour l'Italie, il insiste plutôt sur la joie d'enfin voir cette Église qu'il ne connaît pas encore. Plus que le départ ou le voyage, c'est l'éloignement géographique et l'absence qu'il déplore. Nombreux sont les passages de ses lettres où l'apôtre regrette de ne pas pouvoir être là. Paul écrit des lettres parce qu'il souffre de la séparation avec ses églises communautés. Bien loin d'avoir la mystique des voyages et des départs, on sent qu'il aimerait avoir le don de l'ubiquité pour être présent à toutes ses communautés en même temps. Le départ, le déplacement, est donc davantage un sens symbolique pour lui. Dans la première épître aux Corinthiens, l'apôtre utilise en effet la métaphore de ce déplacement particulier qu'est la course du stade. Vous connaissez ce texte par cœur. En cette année olympique, il est intéressant de l'entendre. Tous les athlètes s'imposent une ascèse rigoureuse. Eux, c'est pour une couronne périssable. Nous, pour une couronne impérissable. Moi donc, je cours ainsi. Je ne vais pas à l'aveuglette. Et je boxe ainsi, je ne frappe pas dans le vide. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25. L'évangélisation est donc une course, un déplacement en avant, une épreuve. Mais veut-il parler des voyages? Ce qui précède dit une toute autre histoire. J'ai été juif avec les juifs comme un juif. Pour gagner les juifs, avec ceux qui sont assujettis à la loi, comme si je l'étais, alors que moi-même, je ne le suis pas. Pour gagner ceux qui sont assujettis à la loi, avec ceux qui sont sans loi, comme si j'étais sans loi, alors que je ne suis pas sans loi de Dieu, puisque le Christ est ma loi, pour gagner ceux qui sont dans la loi. J'ai partagé la faiblesse des faibles, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, pour en sauver sûrement quelques-uns. 1 Corinthiens, chapitre 9, versets 20 et 22. Plus que géographique, le vrai déplacement est donc social. Paul s'est fait un juif légaliste alors qu'il avait renoncé à la loi, un païen alors qu'il ne l'était pas, un esclave alors qu'il nous dit ailleurs qu'il était d'un excellent statut social. Pour Paul, partir, c'est quitter sa famille et son milieu, rompre avec toutes ses relations, remplir le programme que Jésus fixe lui-même à son disciple. Si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Quand on regarde ce que Paul finalement propose, vit, traverse, encore une fois, c'est pas l'explorateur, c'est pas Tintin qui va visiter tous les pays du monde. C'est pas l'explorateur, il n'est pas non plus dans une disposition de vouloir convertir ou changer les gens malgré eux ou contre eux ou avec force, mais d'abord de se faire proche de chacun des lieux, de chacune des civilisations, de chacune des coutumes où ils seront. Quand il est à Athènes, vous connaissez son échec cuisant d'Athènes. Et là, ça y est, découvert une statue d'un dieu qui ne ressemble à personne, un dieu inconnu. Ben moi, je le connais, ce dieu inconnu, et je vais vous en parler. Là, ce dieu inconnu, voilà, il propose la résurrection. Ah d'accord, ok, merci. Sur ce sujet, tu nous en parleras une autre fois. Il n'a pas su se mettre finalement à la hauteur, ou du moins en correspondance ou en discussion avec cette culture grecque qui voyait le corps non pas comme quelque chose à ressusciter, mais plutôt comme une contrainte à la liberté et à la pensée. Et échec cuisant. Je pense que cet échec cuisant a été pour lui la possibilité de se convertir par rapport à sa manière d'annoncer l'Évangile. Aussi, si, et sans doute, sans aucun doute, nous avons tous rencontré des échecs cuisants dans notre manière d'annoncer l'Évangile. D'abord pour nous-mêmes, puisque ce que nous professons, ce que nous disons aimer et compagnie, aimez-vous les uns les autres, on y croit profondément, on ne le vit pas, c'est un échec cuisant. Ensuite, pour tous ceux et celles, et je suis moi le premier à avoir fait de la catéchèse avec les gamins, toutes ces catéchèses qu'on a pu avoir, où est-ce qu'ils sont les enfants aujourd'hui dans nos églises, même devenus grands, qu'on a catéchisés? Échec cuisant? Pas. En tout cas, on peut s'interroger. La faute de personne, c'est comme ça. Mais c'est simplement de se dire, j'en connais des catéchistes qui se disent, mais finalement, à quoi j'ai servi? Ou du moins se sentant complètement démunis par rapport à ça. Alors que je pense qu'il y a d'autres choses à chercher plus loin, que le résultat comptable n'est pas bon. En tout cas, Paul, dans l'échec cuisant qu'il a fait d'Athènes, eh bien, il est parti. Et il a été où? Juste après Athènes, il a été à Corinthe. Alors, par rapport à Athènes, Corinthe, c'est quoi? Corinthe, je ne sais pas si parmi vous, certaines ont été sur les pas de Saint-Paul, du côté de Corinthe ou d'Athènes. Corinthe, c'est un port. Comme, alors ici, à Gramma, évidemment, les premiers ports sont un peu loin. Mais dans la vie des ports, qu'est-ce que l'on a? Vous chantez les ports d'Amsterdam de notre ami Brel, mais enfin, ça y ressemble un petit peu. Les ports, c'est des gens qui vont, qui viennent, qui passent. C'est des hommes qui se font consoler dans les bras de femmes, parfois, voilà, qui sont là pour ça. C'est du commerce, donc, du mensonge, pas toujours tout à fait vrai.
C'est un mélange de mille et une expériences, de gens qui viennent là, qui s'en vont, qui restent, de gens qui accostent là pour trouver parfois une vie meilleure, de gens qui restent à terre et qui tremblent en se disant est-ce que mon mari me reviendra de la mer. Corinthe, c'est une explosion de lieux, on va dire, ce n'est pas la belle Athènes, la capitale de la pensée, de la réflexion, on est tous là en train de se dire, je pense, je ne pense pas, je sais que je ne sais pas, tout le monde faisait pas ça, évidemment, mais disons que c'est un peu le berceau où on est là dans ce genre de pensée, où voilà, ça fait bien, ça fait chic de penser, c'est Paris quand même. C'est Paris, c'est la vieille Montaigne à Paris. C'est la Sorbonne, c'est voilà, les meilleures écoles, c'est là où on pense les choses, et tous les autres, en gros, quand on en parle, on sourit un peu en coin, on se bouche le nez en disant la province. Moi je suis de la province, donc aucun problème. Mais disons que c'est ça. Et Paul va réussir avec ses chers Corinthiens, justement, ses chers Corinthiens. Ces hommes et ces femmes de vie moyenne, de mauvaise vie, pas trop fréquentables, qu'on n'aime pas trop. Et c'est en se mettant au plus proche d'eux, je me suis fait esclave avec les esclaves, sans loi avec les sans loi. Enfin, j'ai réussi finalement à entrer, non pas à imposer un modèle, mais à comprendre ce que les autres vivaient. Quand on est parisien, ou quand on a vécu à Paris, c'est les parisiens, ils ont tous une réputation de, en gros, de vouloir imposer, alors même les Français, on va dire les Français pour le monde entier, on a tous une réputation de vouloir, en gros, imposer nos manières de vivre et de faire et de mépriser à peu près tout le monde. Nous, c'est la liberté, nous, c'est les lumières, nous, c'est l'intelligence, nous, c'est la République, nous, c'est les machins, et on impose les choses aux autres en ne se demandant même pas s'ils sont d'accord. Et bien sûr, ce que l'on propose est forcément ce qu'il y a de mieux, c'est évident. Eh bien, Paul, justement, nous parle autrement. Et il va même non pas remettre en cause l'évangile. Ça, le Christ mort, ressuscité, si je n'annonce pas l'évangile, tout ça ne sert à rien. Hein. Mais il a l'intelligence de s'adresser à chacun, là où il en est, au niveau où il en est, non pas à un niveau, comment dire, en se disant le niveau, vous êtes tous en bas de moi, parce que quand il ne sait pas faire, il délègue à d'autres. Quand il ne sait pas faire, il délègue à d'autres. Il n'est pas seul, Paul. Barnabé et tous les autres qui sont là, qui travaillent ensemble. Et puis Paul, c'est un révolutionnaire. N'oubliez jamais que la première baptisée, ou le premier baptisé d'Europe, est une femme. C'est à Philippe. Philippe, baptême que Paul va faire de cette fameuse Lydie. Et Lydie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est une vendeuse de pourpre. Vous savez ce que ça veut dire? Vendeuse de pourpre. Déjà une femme qui a un commerce. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Dans l'Antiquité, une femme qui a un commerce. Vous savez, l'Antiquité a duré grosso modo jusqu'en 1950, où il fallait demander l'autorisation à son père si on peut travailler et faire des études, et après éventuellement à son mari s'il est d'accord pour que l'on fasse des études ou que l'on travaille. Pour celles qui ont connu cette période-là, les années 50, il y a quoi? 10%, 15% de femmes qui peut-être travaillent, et encore, pas travaillent. Non pas que les autres ne travaillaient pas, vous comprenez ce que je veux dire. Et puis les carnets de chèques et les d'autorisation de disposer d'un salaire, c'est quoi? C'est les années 60. L'Antiquité a duré longtemps, hein, sur certaines pratiques. Mais en tout cas, cette période-là, une femme avec un commerce, et elle vend du pourpre. Vendeuse de pourpre, il n'y en a que deux catégories sociales qui portent le pourpre. Une qui n'en a pas besoin beaucoup, et une qui en a besoin beaucoup à l'Antiquité. Ceux qui n'ont pas besoin beaucoup, c'est l'empereur et les castes supérieures, la couleur du pourpre et la couleur royale. Et celles qui en ont besoin beaucoup sont les courtisanes et les prostituées. Le rouge, ça se voit de loin, ça attire le regard. C'est la couleur des prostituées. Dans certains, alors je n'ai jamais visité, et heureusement je suis venu après, mais les lupanars, quand on regarde certaines films anciens, le rouge il est quand même très très présent. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un lupanar, vous demanderez à vos sœurs de vous expliquer. Et c'est un lieu, en tout cas, où cette pendeuse de pourpre dit quelque chose, d'abord, de complètement révolutionnaire et de complètement en décalage par rapport à cette société. Et c'est elle, la première baptisée d'Europe. Alors, quand on dit que Paul n'aime pas les femmes, ou je ne sais quoi encore, c'est vraiment, vous savez, ces espèces de slogans qu'on a entendus de quelqu'un qui l'a entendu lui-même de quelqu'un d'autre, et que sans vérifier, un peu comme des perroquets, on le répète bêtement. Un perroquet, il a toujours les mots justes, mais il ne comprend pas ce qu'il dit. Parfois, ça nous arrive aussi. On peut avoir des mots justes, même des définitions de catéchèse absolument justes et parfaites, mais on ne comprend pas ce qu'on dit. Soyons pas des perroquets, soyons vraiment des hommes et des femmes de réflexion. Voilà, donc cette invitation aussi à peut-être prolonger, vivre, c'est pas avec cette retraite que vous découvrez le sens de ça, mais et ça fait bien longtemps que vous ne m'avez pas attendu pour le faire vous-même ou entendre tout ce que je vous ai dit, mais véritablement envisager avec audace ce chapitre qui s'annonce, à la fois avec une audace sur quelque chose qui n'est pas encore écrit, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous allez, avec la force de l'esprit, parce que c'est l'esprit qui conduit la congrégation, découvrir, mettre en œuvre, mettre en lumière. Et de l'audace pour aller là où ce n'était pas prévu, là où peut-être vous n'auriez pas mis les pieds. De l'audace. Encore une fois, oui, oui, vous avez un certain âge, oui, vos forces diminuent, oui, et encore une fois, je le redis, et alors? Et alors? C'est dur de casser ce et alors. Parce que tout de suite on dit, ouais, c'est vrai, si seulement c'était vrai. C'est ça la dimension de l'évangile. Voilà, moi, j'ai terminé mon propos. Je vous proposais hier, si vous souhaitiez, de recueillir les formes de prière, d'action de grâce, de mots, de ce que vous voulez, ce qu'a été pour vous cette retraite, de pointer, pourquoi pas, un moment, une expression, quelque chose. Et voilà, on rendra grâce ensemble au Seigneur, un petit peu comme un grand bouquet de fleurs dont par la prière nous avons lié cette gerbe de fleurs d'action de grâce. Alors, la parole est à celui qui voudra la prendre. Je peux vous passer le micro si vous souhaitez, juste manifester pour que je vous vois.
À la fin de cette belle semaine, unis beaucoup les uns aux autres, je viens à toi, Seigneur, tel que je suis, paisible, comblé. Je te dis merci. Puis je suis heureuse de rentrer, de retrouver des personnes d'entre vous. Habité d'un désir profond, mais aussi une interrogation sur ce mot qui me frappe beaucoup et que je n'aurais pas pu dire jamais, d'approfondir, prendre soin, prendre soin. Au Seigneur, je vais repartir, continuer la route, confiant, avec mes frères et sœurs toujours en forme comme nous. Oui, confiant et sûr que Dieu est toujours là. Et je continuerai. J'essaierai au moins. Et avec toi, je suis sûr qu'il y aura, continuera de combler avec le divinité. Tu seras là. Merci encore pour vous de vous.
Nous chanterons à
toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Je me souviens qu'on a commencé les premiers jours et le père Sébastien nous a proposé de prier, de visualiser, imaginer de son âme, de la peur et de l'analyse. Donc j'ai peur, la peur que je dépose à l'autel dans le sens de toute la richesse qui nous avons vécu. Ensemble, dans toute la richesse, l'amour de Dieu, il y a toujours une redécouverte. Et je demande toujours cette grâce de marcher dans la vie en découvrant en profondeur de plus en plus cet amour infini de Dieu pour chacun de nous. Et en même temps, je vais prendre l'autre symbole qui est généraliste, qui porte tout ce que nous sommes. Hein. Je crois que ces jours-ci, nous avons pu faire un processus de prière, de découverte aussi. Je sais qu'il fait partie de ce généraliste. Hein, des belles choses, des propos, des souvenirs, hein, des mémoires. Et aussi des limites, des choses qu'on n'arrive pas encore à surmonter. Hein, que le Seigneur nous donne la grâce de reconnaître, de les embrasser, de les accueillir, pour qu'ils puissent nous aider à améliorer, à être plus agir. Et je me souviens aussi en parlant de Valise, qui est un prêtre dans une retraite à São Paulo, il nous a dit: nous, les religieux, les religieuses, nous devions être comme une valise, toujours prête à aller où Dieu nous veut. À être une valise disponible. Donc, je prie, je renouvelle ma disponibilité dans ce sens, à cheminer avec vous tous, toutes, dans ces chemins de l'église, de synodalité, de congrégation de famille pavarienne. Et je reviens à la phrase qui me met toujours sur la bonne voie, que ta volonté, Seigneur, soit faite et pas la mienne.
Nous chanterons
pour toi, Seigneur. Tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
J'ai été particulièrement touchée par ceci, notre péché, qui avec la grâce de Dieu devient une pierre angulaire pour nous. Seigneur, ce donjon de grâce, afin de revenir à la source de la vie, une consécration, une manière nouvelle de revenir à ton amour, revenir à ce que j'ai déjà dit. Je veux te suivre, Seigneur, avec mes qualités et mes limites. Mais ton amour est plus grand, et le mot, je m'arrête dans la retraite. Avec rien du tout, mais avec ta grâce, je sais que tu es capable de ton amour, ma compagne, pour avoir toujours cette joie de l'évangile, la joie de la vie consacrée. Et merci à sa fille et mes soeurs de m'a donné encore une fois la confiance. Apprends-moi encore à avancer pour suivre le Christ et le chemin de la chasteté. Et que le Seigneur nous aide de vivre dans la conversion permanente, de croire et manœuvre toujours avec nous. Donc avec moi ensemble, en toi j'ai mis ma confiance.
Ô Dieu très saint, toi seul es mon espérance et mon soutien, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint, c'est pourquoi je ne crains rien. J'ai foi en toi, ô Dieu très saint.
Je te rends grâce, Seigneur, pour tout ce qui nous a été donné durant cette retraite à chaque vie et chaque jour. Je retiens trois points. Ce qui nous a été dit dès le départ, la première priorité, faire connaître la parole de Dieu. Un autre point, l'Esprit Saint est toujours présent. Il attend notre présence. Et le troisième point, c'est tout ce qui a été dit justement sur la pierre angulaire.
Toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs,
à jamais
nous délivre.
Seigneur, je te rends grâce pour ce fruit de la retraite qui est une joie toute simple, une joie paisible
Nous avons pu revenir à mon premier appel et de revoir toutes les personnes qui m'ont accompagné sur ce chemin pour que je devienne ce que je suis aujourd'hui. Et je repars avec une espérance ouverte pour ce que tu vas donner à notre congrégation de découvrir et continuer d'avancer. Mais surtout, les chefs d'espérance, c'est toutes ces personnes, toutes les laïcs, les jeunes sœurs qui sont en train de se joindre à notre famille pour construire ensemble ton royaume.
Je te rends grâce, Seigneur, à la fin de ce temps. Tu es venu me cueillir encore ce matin avec ce mot audace. Avec toi, je peux toujours oser un pas de plus. Pendant cette retraite, faire trace de quelque chose qui m'a bien parlé. Je ne voulais pas faire trace. Aujourd'hui, je me sens ouverte à cette possibilité. Je me sens invitée à revisiter mes talents pour les mettre à ton service et au service des autres. Je te rends grâce pour cette ouverture nouvelle. Prendre soin est le fil rouge de ma vie. C'est venu se redire ici avec force. Maintenant, me laisser guider par ton esprit pour accueillir le nouveau.
Pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre que ta parole
cette semaine, il y a des choses chez moi qui sont remontées à la surface. J'en suis un peu secouée. Mais je ne me laisserai pas abattre. Je vais rebondir, encouragée par les belles paroles positives et percutantes que nous avons entendues.
Seigneur, tu nous as fait revivre que ta parole dans
contemplant ce calvaire que nous avons devant nous, avec le Christ en croix, la Vierge Marie et Saint Jean, pour reprendre la route, pour suivre la route, je propose de réentendre très simplement les sept paroles du Christ en croix, comme autant d'invitations de source pour retrouver le mystère de votre congrégation. Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Femme, voici ton fils, voici ta mère. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai soif. Tout est accompli. Père, entre tes mains, je remets mon esprit.
Nous chanterons pour toi, Seigneur, tu nous as fait revivre, que ta parole dans nos cœurs à jamais nous délivre.
Bonne fin. Le micro a rendu l'âme. Tout aura marché jusqu'au bout, mais le micro ne marche plus. Donc, bonne fin de matinée et à tout à l'heure pour la messe dans une heure, à 11h.